Alléluia.
Gloire à Dieu.
Alléluia.
Gloire à Dieu.
Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui et je suis très heureux de vous avoir dans cette bonne humeur. Bon, il y en a qui ont les choses demandées. On vous a dit depuis la semaine dernière que, non pas la semaine dernière, depuis trois semaines, que les enseignements sont devenus de plus en plus techniques, parce qu'il faudrait que vous ayez la capacité de débattre véritablement sur la chose de Dieu, que vous cessiez d'être des personnes qui ne consomment que de l'eau ou du lait. Vous allez apprendre à mâcher le macabo, le pain, le mitouba, et avec le temps, certains vont se retrouver à croquer le tendon. Dans cette cuisine-là, on vous a déjà donné un enseignement sur Jésus-Christ, en tant que Jésus-Christ étant Dieu. On vous a donné un enseignement là-dessus. Jésus-Christ est Dieu vivant. Après, on a fait un autre enseignement qui était lié à la foi, la grâce. La grâce et la foi en Jésus-Christ. La semaine dernière, si tu te rappelles de ce qu'on a fait ensemble, on a parlé de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. On a regardé comment cette interaction se fait et on a vu les différentes articulations de cette interaction. On a même vu les actions qui citent. Quand on dit la vache qui dit, mais quoi ça fait que ça arrive encore aujourd'hui? Même pas moi qui décide, c'est l'Esprit Saint qui prend le contrôle du Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette foulée parce qu'il est important de vous donner une fondation solide. Nous avons dit, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est la pierre angulaire, et parce qu'il est la pierre angulaire, il faudrait que vous ayez, vous, les fondations solides pour savoir pourquoi miser sur Jésus-Christ, pourquoi investir en Christ, pourquoi investir dans la marche avec Dieu, particulièrement dans la marche en Christ. Nous avons eu à expliquer un certain nombre de choses dans ce sens, et nous continuons. Cette semaine, nous allons parler de l'adoration et dimanche prochain, nous allons parler des lois. Par permettre aux uns et aux autres d'avoir un confort certain quand il s'agit de parler de Dieu et d'entrer dans ce que l'on appelle un enseignement charismatique. C'est-à-dire que ce ne soit pas un enseignement de théorie théoricienne, mais que ce soit un enseignement de pratique, de vécu et de vie dans la marche avec Jésus. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent du fait que Jésus a souffert entre lui-même. Il y en a qui ont des trucs, mais ils n'utilisent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas la dimension charismatique de la marche avec Dieu. Leur Dieu est inerte, n'est pas vivant, n'agit pas, n'interagit pas. C'est quelque chose de terrible. Vous allez voir ce problème avec beaucoup de pasteurs, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sont des pasteurs, des joints, mais ils ont une utilisation extrêmement limitée de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas Dieu dans la dimension d'action. Ils ne voient pas Dieu dans la dimension de concrétude, comme on dit, de concrétisation des choses. Ils ne voient pas Dieu dans la dimension de réaction. Et certains qui sont toujours, ce n'est pas une critique, c'est une simple observation, il arrive régulièrement d'avoir un regard, parfois intime de certaines situations. Là où il y a un cas de possession, il ne soupçonne même pas la possession, parce que lui, il voit la chose de façon théorique. Là, il y a un cas d'engouement, il ne voit même pas l'engouement, parce qu'il voit la chose de façon théorique. Là, on a un problème de dédicace, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, il y en a ici, qui ont été dédiés à des entités sataniques ou à des divinités, il ne verra pas qu'il y a un problème dans la vie de cette personne et qu'il ne suffit pas de lui donner l'évangile. Mais qu'il faut utiliser la dimension charismatique, c'est-à-dire l'action, la marche à Dieu. La dimension charismatique demande une compréhension profonde de la marche à Dieu. Quand vous regardez un des évangiles, vous vous rendez compte que, de toute façon, parmi ceux qui ont écrit ce Jésus-Christ, vous allez lire Marc, Matthieu déjà, Marc. Quand vous regardez Luc, il y a une différence majeure avec Jean. Jean entre dans la dimension spirituelle même de Dieu, de Jésus-Christ, en lui donnant sa place en tant que Dieu. Et là-dedans, il y a une dimension charismatique, comme dans les actes des apôtres. Il y a une dimension charismatique. Il y a une connaissance pratique de la marche avec Dieu, une influence réelle de cette marche avec Dieu. C'est pourquoi nous pouvons opérer les délivrances, c'est pourquoi nous pouvons agir sur vos vies, c'est pourquoi nous pouvons transformer vos vies, parce qu'il y a la dimension charismatique. Il y a plusieurs branches de la théologie, on ne va pas revenir là-dessus, mais nous sommes dans la dimension charismatique, pour que les uns et les autres comprennent que le Dieu qui sert est un Dieu vivant. Dieu vivant, c'est-à-dire un Dieu qui agit. Amen.
Amen.
Habituez-vous à un Dieu qui agit, sinon il ne vous sert à rien. Donc, nous allons parler d'adoration, et nous allons en parler, comme d'habitude, de la dimension théorique, théologique, à la dimension pratique, charismatique. Parce que l'adoration ne doit pas se limiter à des simples mots, à la simple prière, au chant, ou quoi que ce soit. Non, elle doit agir. Si vous avez une adoration qui n'agit pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'adoration. Donc, il faut qu'on ne peut pas se monter cette affaire, si c'est trop bas. Donc, on va parler d'adoration, on va parler de louange. Cet enseignement va vous aider, n'est-ce pas, à avoir un certain confort sur ce qu'est l'adoration et avoir une certaine compréhension de ce qu'est l'adoration. Il est extrêmement important que vous réalisiez que tous les enseignements que vous recevez ont pour but d'avoir un impact sur vos vies. Vraiment, si vous apprenez des choses, ça ne vous rend aucun service. Vraiment, vous êtes trompé. Ici, là, Dieu agit. On ne se résume pas à donner un enseignement. Voilà ce que l'Esprit Saint me rappelle. Prenez Actes des Apôtres. Je n'avais pas prévu ça. Je vous donne ça. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1? Celui qui peut lire, dit.
Actes des Apôtres, 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire, de l'enseignement dès le commencement.
Comment? De tout ce que Jésus
a commencé à faire et d'enseigner,
oui,
dès le commencement.
Jésus-Christ est le maître. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité et la vie. Jésus-Christ fait quoi? Il fait et il enseigne. C'est-à-dire quoi? Un homme de Dieu. Un enfant de Dieu doit comprendre ces deux démarches. Si vous avez la relation à Dieu seulement dans la dimension de père, il y a un problème. Vous êtes dit, parce qu'il y a un certain nombre de problèmes dans certaines églises, et c'est surtout en Afrique qu'on remarque ça. Beaucoup d'Africains, ils sont attachés à la dimension du pouvoir. Dès qu'il a le don de délivrance, il n'en fait plus. Il parle pour terre seulement là-bas. Et qu'il faut enseigner 10 minutes. Tout le reste, c'est quelqu'un très délivré. 2 heures de délivrance. Mais il y a un problème. Jésus-Christ fait et enseigne. C'est-à-dire, il agit et il enseigne. Donc tous les suivants de Christ doivent faire et enseigner. Il y a des petits temps limités à l'enseignement. Quand une personne en face qui vient te poser un problème, il te dit que vraiment, j'ai du mal à gérer l'argent. Pas parce que j'ai l'argent, mon salaire arrive, il y a une porte qui me pousse à donner cet argent à quelqu'un. Et on ne me le rembourse plus jamais. Voici bien, tu commences à dire que c'est mon fils. C'est ton argent que Dieu t'a donné. Et puis, je ne sais pas gérer. Non, maman, est-ce que je prie pour toi? Il va prier là, tout ça. Dieu va regarder, il va rire de ce cas. Le problème est très bien, il y a une entité qui est responsable de cette déviance. Il faut l'attaquer. Si tu n'as pas la connaissance charismatique de la marche avec Dieu, tu vas bavarder en l'air et rester en surface de la surface. Tiens, pour les couches que tu as dans la surface, tu restes au-dessus, à la partie la plus superficielle. Vous devez entrer dans la dimension de la pratique de la marche avec Dieu. D'ailleurs, même pour dire la vérité, c'est ce qui attire beaucoup ici, ceux qui ne comprennent pas les engagements qui vont avec. Les engagements qui vont avec vous obligent à comprendre l'enseignement en tant qu'enseignement à pratiquer. Enseignement en tant qu'enseignement dont il faut s'approprier. Enseignement en tant qu'élément qu'il faut utiliser. Beaucoup ici ont commencé à comprendre ça. Ils ont compris que quand ils sont malades, il suffit de prier et ils obtiennent le résultat, ils appellent l'envoyé. Quand ils désirent quelque chose, il suffit de prier. C'est ça. Apprenez à avoir un Dieu vivant, à avoir l'Esprit Saint qui est vivant. Qui agit, interagit avec vous. Donc, c'est dans cette enseignement que nous sommes. Enseigner et faire. Et quand il s'agit d'enseigner et faire, nous tous, nous sommes concernés. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'envoyé, ce n'est pas seulement l'affaire des autres autour de l'envoyé, c'est votre affaire aussi. Parce que certains parmi vous sont des appelés. Et leur appel tarde. Et dans les appels qui tardent, il y a souvent les coups de pied manqués. Mais oui, quand l'appel n'a pas été reçu et compris, on peut se retrouver hors appel. Dieu a appelé, qui a manqué l'appel. Hein, comment ils disent les anglophones, missing call. Oui. Tu regardes ton téléphone, Dieu a appelé, si c'est passé. Vous savez que quand un inconnu appelle le téléphone est codé. Quand c'est quelqu'un qui a le téléphone codé qui appelle, tu vas seulement que tu as un appel en attente, mais tu ne sais pas qui a appelé. Les gens en l'air, ils n'ont pas les appels manqués parce qu'ils n'ont pas été dans la bonne posture qui leur permet de vivre Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration. C'est un sujet majeur. Nous avons la grâce d'avoir déjà eu à nous rappeler que Jésus-Christ est Dieu. Nous avons vu que la foi en Jésus-Christ est le pilier de tout ce qui nous construit. Nous avons compris que grâce à Jésus-Christ, on peut avoir l'Esprit Saint. Nous avons pris conscience du fait que c'est Jésus-Christ qui va dire par l'Esprit Saint et par le feu. C'est lui qui donne cet Esprit Saint. Nous avons vu ce que la foi en Jésus-Christ produit comme miracle, nous l'avons vu personnellement. Nous avons vu les interactions entre Jésus-Christ et l'Esprit Saint. À quel moment majeur l'Esprit Saint a agi selon la parole dans la vie de Jésus-Christ. Nous entrons donc dans l'adoration. C'est quoi l'adoration? En fait, quand on regarde la compréhension étymologique de l'adoration, ça vient du latin adoratio. Adoratio désigne quoi? C'est une action, c'est une attitude qui exprime le respect et l'honneur à l'égard du grand Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu de la création, le Dieu qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Le psaume 24, le verset 1 et 2 parle de cela. Donc l'adoration est centrée sur Dieu et sur personne d'autre. Quand on parle d'adoration, c'est centré sur Dieu. Et puis ça me rappelle quelque chose. Vous avez, à travers les médias, un vocabulaire pervers qui s'est propagé. C'est celui qui dit qu'on adore ceci. J'adore la salade. Je t'adore. J'adore. On adore que Dieu. Je viens de dire qu'il y a une banalisation de l'adoration en dehors de Dieu. J'adore manger cette chose. Les gens blasphèment de façon récurrente, régulière, avec une facilité extraordinaire. Ils adorent des choses, des moments, des événements, des gens. Et bien entendu, ils n'adorent pas Dieu. Donc ils se fabriquent des idoles en permanence. Et c'est un peu dans le vocabulaire commun. J'adore ceci. J'adore cette chaise. Moi aussi, comme le Seigneur Jésus de la chaise, je peux aussi adorer. Vous voyez pas la confusion satanique qui a dedans. C'est même vraiment satanique. Donc c'est adorer n'importe quoi. Même les anglophones font la différence entre life, love. Et adorer, c'est un passé, il y a un 3 degrés. Nous, on a trouvé que l'être, l'homme, adorer, c'est trois niveaux trop compliqués. On a tout mis à adorer. C'est le diable qui fait les choses comme ça. D'infuser dans le vocabulaire commun de tout le monde le blasphème. D'essayer de ramener toutes les choses au niveau de Dieu. Il n'y a rien qui soit comparable à Dieu. Il n'y a personne qui soit comparable à Dieu. Il n'y a personne qui soit comparable à Jésus-Christ. On ne peut pas adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Au niveau définitionnel, déjà, il y a problème. Parce que la pratique n'a rien à voir avec ce que l'on attend. Les gens adorent tout. J'adore cette coiffure. Une coiffure à adorer. C'est ton Dieu maintenant. J'adore ces lunettes. Je dois aussi adorer mon micro, pourquoi pas. Regardez le but qu'il y a derrière ces dérapages dans le langage, dans le vocabulaire. La définition est claire. Le respect et l'honneur à l'égard de Dieu. C'est nous qui sentons qu'il n'est pas comparable. Mais on trouve quand même que le respect et l'honneur qui lui revient. On doit donner ça encore à d'autres personnes, à d'autres choses, à des événements. Il faut demander au voisin qui t'a menti. Dieu au voisin, voisin, il n'y a que Dieu qu'on adore. Dieu au voisin, c'est au voisin. Quand le fumé, c'est plus le verre là devant toi, n'importe quoi. Ne laissez plus dans vos familles, dans vos lieux de service, les gens utilisent le verbe adorer n'importe comment. Il n'y a que Dieu qu'on adore.
Amen.
Mais je vous ai dit que ici, la délivrance commence par l'enseignement.
Amen.
C'est le plan divin. Le peuple périt faute de
connaissance.
Tu connaîtras la vérité et la vérité
t'affranchira.
C'est important de comprendre ça. À travers l'adoration, nous nous approchons de Dieu avec la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est important de prendre conscience de ça. Nous nous approchons de Dieu à travers l'adoration, à travers la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous en Christ et par le Saint-Esprit. Vous voyez que chaque fois, quand on a Christ quelque part, le Saint-Esprit est aussi dans le secteur. Nous avons montré la semaine dernière la relation, pratiquement de la naissance de Jésus-Christ. Juste avant la naissance de Jésus-Christ, je vous ai montré comment depuis Esaïe, parce qu'il y a plusieurs passages. Parce qu'il faut dire bon de savoir ça. Ça ne dépend pas d'entendement. Esaïe a vécu à peu près 1100 ans avant Jésus-Christ. Si ce n'est pas l'Esprit Saint qui a expliqué ça à Esaïe, il est impossible à une intelligence humaine que quelqu'un ait prédit un événement 1100 ans avant. Avec autant de précision. Dans notre enseignement, on reviendra à Esaïe. Vous allez vous rendre compte que Esaïe a même prédit la vie de Christ. Il n'a pas fait qu'annoncer l'arrivée de Jésus-Christ. Il a prédit la vie de Jésus-Christ 1100 ans avant. Donc, quand les gens sont bien assis dans l'âme qui n'a pas encore été renouvelée par l'Esprit Saint, ils ne peuvent pas comprendre dans les choses-là. Vous avez dit que dans l'âme, il y a quoi? L'intelligence. Et là, à côté de l'intelligence, il y a quoi? Les émotions. Et à l'heure, les émotions, il y a là. On ne sait pas comment les trois choses peuvent prédire un événement 800 ans avant.
Impossible.
Dans les détails. Donc, c'est une parenthèse. Il est extrêmement important de comprendre donc, que cette adoration-là nous rapproche de Dieu. Elle nous ouvre beaucoup de portes. Elle nous permet d'avoir une meilleure relation à Dieu. L'adoration nous sert de solution par rapport à beaucoup de problèmes que nous avons dans la marche avec Dieu. Elle peut servir dans beaucoup de compartiments. Et on va voir ça ensemble tout à l'heure. Adam et Ève ont adoré Dieu. Caïn et Abel ont fait des offrandes à Dieu. Ce n'est pas quelque chose de fondamental. Depuis la création, l'adoration se faisait. Caïn avait fait une offrande. Sauf que Dieu a préféré l'offrande de son frère Abel. On ne reviendra pas là-dessus. Parce qu'il y a un autre enseignement qui est lié à ça. Mais, qui était? C'est le troisième fils. De qui? Adam et Ève. Bon, il y a quand même une affaire là-dedans. Je vais essayer de déranger avec ça. Je préfère passer. Parce que quand même, de vous à moi, peut-être c'est un homme qu'on ne prouve que c'est africain. Il n'y a pas de blanc qui t'appelle c'est. D'un point de vue scientifique, il peut être établi que c'était un noir. Si c'était un noir, ton père et ta mère étaient quoi?
Noir.
Non, c'est le bon sens. Hein? En même temps, je vais vous montrer comment Dieu de l'amour fabriquait un bon noir. Je ne faisais que passer par là. Excusez-moi d'avoir appuyé sur le bouton de ranger. On continue. Abraham a battu un hôtel. Il a bâti un hôtel pour offrir des faits des offrandes au Seigneur. Vous pouvez prendre Genèse 8, verset 20. Genèse 12, de 7 à 8. On peut lire ça ponctuellement. Genèse 8, verset 20. Genèse 12, de 7 à 8. Et Genèse 22, 9. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau, l'adoration. Ceux qui ont Genèse 8, qui ont retrouvé, qui lisent un peu, et la prochaine personne prépare Genèse 12, de 7 à 8, et Genèse 22, 9. On évolue de façon chronologique. On a commencé à la Genèse.
Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel.
Amen. Vous voyez que quand on regarde Abraham, avant Abraham, Adam et Ève, les enfants d'Adam et Ève, Noé, toute cette chaîne-là de personnes historiquement connues dans la parole ont adoré Dieu. Noé a bâti un autel. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire Genèse 12, de 7 à 8?
Genèse 12, verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident, et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel.
Les autels sont bâtis dans ce cadre-ci pour l'adoration. Là où Dieu a parlé à Abraham, il a bâti un autel. Il en a encore bâti. Et c'est quelque chose de vrai depuis le départ. En lisant Genèse 22, 9, on va retrouver le même principe. On continue de façon chronologique. Après les choses, Dieu a établi plusieurs fêtes religieuses qui permettaient aux Israélites, n'est-ce pas, de participer à l'adoration publique. C'est très important. Parce que de toute façon, si le peuple ne peut pas participer à l'adoration publique, il est déconnecté de Dieu. La connexion à Dieu demande de la chaleur, demande de la lumière, demande un effort. Je vais vous dire ça autrement. L'état dans lequel vous êtes ne compte pas. Parce que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est le fait que vous le désiriez en permanence. Entendez bien ce que je vous dis. Il faut être en permanence dans l'élan de désirer Dieu. Dieu a besoin d'être désiré. Vous devez être dans l'effort permanent d'aller vers lui. D'un homme qui a une autre route. Est-ce qu'il y a une vie en dehors de Jésus-Christ? Si vous n'avez pas l'élan permanent de désirer Dieu, vous allez couler. Or, l'un des seuls événements majeurs qui permettent de matérialiser le désir qu'on a vis-à-vis de Dieu, c'est l'adoration. Et comprenez que c'est là que ça se passe. Pécheur, pas pécheur encore, que dit pas pécheur, ça c'est à voir. Il faut toujours être dans cet élan-là qui permet à l'Esprit Saint de vous renouveler, de vous sanctifier, de vous restaurer, de vous déconnecter, de vous élever. Il faut entrer dans cet élan. Et cet élan a quelque chose de formidable. Vous allez voir ça tout à l'heure. Il permet d'obtenir la miséricorde. L'élan de l'adoration vous permet de vous approcher de Dieu, de vous perfectionner en Dieu, de vous améliorer en Dieu, et ainsi d'obtenir la miséricorde, ce qui vous permet de grandir en termes d'acquisition de votre héritage en Jésus-Christ.
Amen.
Merci. C'est pas facile que je répète. Je dis au fur et à mesure que l'Esprit Saint fait descendre en moi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai établi. Donc vous devez comprendre ce qui est là et comprendre pourquoi la participation à l'adoration publique est importante pour le peuple. Donc vous avez quelques passages que vous allez juste garder parce qu'on a dit que l'école a commencé, on a vraiment fait l'école. Exode 23, de 14 à 17. Exode 23, verset 14 à 17. Lévitique 1, le 7 et le 16. Exode 23, 14 à 17, venez des notes, on ne va pas lire ça. Lévitique 1, le 7, le verset 7, le verset 16. Lévitique 23, de 4 à 44. Lévitique 23, de 4 à 44, Deutéronome 12, le verset 16. Je vais lire les passages juste pour vos édifications. Exode 23, de 14 à 17, Lévitique 1, de 7 et 16, Lévitique 23, de 4 à 44, et Deutéronome 12, de verset 16. À l'époque du Nouveau Testament, il y avait des synagogues en Palestine et dans l'Empire romain. À quoi servait la synagogue? Elle servait à l'adoration. Dans tout ce que signifie l'adoration, vous allez voir, on va segmenter ça. Vous devez comprendre l'importance de l'adoration. Sans l'adoration, il n'y a pas de relation à Dieu. Sans l'adoration, la relation à Dieu est morte. Dans l'adoration, il n'y a pas de dynamique dans la relation à Dieu. Elle n'a pas de contenu. Elle n'est pas vivante. Et vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va déployer l'enseignement là-dessus. Vous retrouvez la synagogue en Palestine par rapport à la parole. Vous n'avez qu'à prendre Luc 4, 16. Jean 6, verset 59. Luc 4, 16. Jean 6, verset 59. Acte 6, verset 9. Luc 4, 16, Jean 6, 59, Acte 6, 9, Acte 13, 14, Acte 14, 1, Acte 13, 14, Acte 14, 1, Acte 18, 4, je ne vais pas égrener tous les versets, il y en a beaucoup. Nous avons dit que nous allons travailler à votre édification, donc vous donne des références qui permettent aux uns et aux autres d'aller lire. Allez lire au... Dès que quoi? Voilà. L'adoration est quelque chose qui est pratiqué depuis l'église primitive, aussi bien dans le temple de Jérusalem que dans les maisons. Donc ce n'est pas quelque chose d'accessoire. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Il y a plein de passages même encore, que ce soit dans Romains, Actes, Philémon, Colossiens qui permettent de prouver l'adoration dans les temples, dans les synagogues, dans les maisons. Alors quand on parle d'adoration, il y a quelque chose de très important. Comme la dernière fois, on vous donne ce principe. Vous devez être à l'aise de ces principes. Il y a deux principes clés en matière d'adoration. La véritable adoration se fait en vérité et en esprit. C'est le premier principe. La véritable adoration se fait en vérité et en esprit. Tel que Jésus-Christ l'a enseigné. La véritable adoration se fait en vérité et en esprit. Tel que Jésus-Christ l'a révélé. Et ce passage est connu, c'est Jean 4, 23. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous lire Jean 4, 23?
Jean 4, 23, il est écrit: mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Il faut relire, ma fille. Les gens doivent bien entendre ça. Les fidèles doivent entendre ce qui est écrit là-dedans.
Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Bien. Dieu doit être adoré en vérité et en esprit. Parce que c'est là les vrais adorateurs que le Père désire. On a dit en vérité en esprit. Dieu est esprit. L'homme est esprit. Dieu est esprit, c'est pourquoi il doit être adoré en? Dieu est vérité, c'est pourquoi il doit être adoré en? Oh. Si vous avez des idoles et tout ce que vous avez là, vous dites que c'est lui que vous adorez, vous êtes en train de vous casser le nez. Et vous ignorez tout simplement tout ce qui a été écrit dans la parole. J'ai oublié le nom de l'acteur là qui a écrit même pour dire qu'il ne faut plus l'adorer. Qui n'est qu'un acteur de cinéma? Celui qui a joué le film, c'est celui. Les gens ont des photos partout. Un bon fumeur. Un gars qui tranquillement a joué son rôle pour un film. Et puis les gens ont dupliqué ses photos un peu partout, on est au salon. Jésus n'était pas blanc. Oubliez ça. Et il faut vraiment que vous sortiez ça. On connaît l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Sa mère était une cananéenne. Les cananéennes sont des noirs. on sait très bien d'où parle l'histoire des Noirs. Et regardez tous les leaders dans l'Ancien Testament, ce sont des Noirs. Vous savez pourquoi je parle d'identité là-dessus? Beaucoup d'Africains ont du mal à accepter le christianisme parce qu'ils sont dans le sentiment d'emprunter le Dieu des autres. Or, c'est notre Dieu qu'on nous a volé à travers les mensonges. C'est notre Dieu que les autres ont emprunté. Et ils l'ont transformé. Quelle calamité! Mais regardez tous les rois qui ont été établis à Israël. Beaucoup d'entre eux étaient des polygames, n'est-ce pas? Salomon était polygame. David était polygame. Etc. Vous connaissez combien de blancs polygames? Quand il est écrit, il faut pas analyser les choses parfois sans avoir utilisé la jugeote. Il est écrit dans la parole qu'il faut examiner les prophéties. Quand il est écrit, tu as dit que sa peau est comme si le soleil l'avait brûlé. Quelle est la peau qui ressemble à celle que le soleil a brûlé?
Ah.
Vraiment. Il y a des mots dont beaucoup ne comprennent pas les origines. Quand tu entends éthiopien, à l'origine, Éthiopie veut dire pauvre. Mais c'est un noir. Les Hébreux, les premiers Hébreux sont des noirs. Les premiers Arabes sont des Arabes, même dit noir. Les premiers Juifs sont des noirs. Il a été démontré en génétique ici que les Malimbala sont des Juifs. On a regardé leur code génétique, on a dit que les gens qui viennent de là-bas. Aujourd'hui, la génétique est très avancée. C'était une parenthèse parce qu'il faut dédogmatiser certains cerveaux. Désengoûter les gens de la possession due aux faux enseignements et aux faux dieux blancs. Quand ils sortent un film sur Noé, ils sortent Noé noir. Quel noir, Noé, quel ils sortent Noé blanc. Noé était noir. Je vous ne vraiment quand ils font leur science se passe. Les ossements les plus anciens sur Terre datent de 7 millions d'années. Ce sont les ossements d'un noir. Et récemment, même on a fait des travaux. C'est une parenthèse, je ne peux pas louper ça. Parce que cette histoire minée. On a fait des travaux. Parce qu'on croyait que le génocide blanc existait depuis 40 000 ans. Les travaux de génétique ont démontré que non. Ce sont les Africains qui ont colonisé les États-Unis, qui ont colonisé l'Europe, et en fait, ce sont les Africains qui sont arrivés en Europe il y a 40 000 ans. Le blanc lui-même n'existe que depuis 8 000 ans. Et j'aime enseigner ça là où il y a les blancs, et je vais voir vous dire, je sais pas. Parce que comme ils sont les saints, ils demandent alors les deux vies dans la science. Je leur dis que la science et les travaux montrent ceci. Alors, votre Jésus-Christ blanc, il sort tout. C'est notre Jésus que vous avez volé. C'est notre père à nous, c'est pas à vous.
C'est nos arrières, petits fils, ils sont faits. Mais
c'est que vous êtes toujours gommés de vos têtes. Tu mets un enfant au monde, là. Il dit que le continent où il habite, c'est le vieux continent. L'Europe est le vieux continent qui la barre de quoi? Quel mensonge! Je passais par là. Donc vraiment, les principes de l'adoration, c'est parce qu'il y a le mot vérité qui a certifié une partie de moi, qu'il fallait que la vérité sorte aussi. On adore Dieu en vérité et en esprit. Le deuxième principe, c'est le principe de l'adoration qui correspond au modèle du tabernacle que Moïse avait vu. Moïse, Dieu lui a montré un modèle, le tabernacle qu'il faut construire pour l'adoration. Et vous allez vous rendre compte que depuis Moïse, ce modèle a été reproduit tout simplement. Acte 7, verset 44 parle de ça. Moïse a vu un modèle que Dieu lui a montré. Alors il y a quelque chose d'extrêmement important. L'adoration dans la Nouvelle Alliance, parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, celle qui a été ouverte par Jésus-Christ. Il y a plus de sacrifice. Parce que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, sur la croix. Il a aboli dans le système de sacrifice. Rentrons un peu dans l'histoire, parce que c'est extrêmement intéressant. Je vous ai dit que vous allez manger à Jésus. Qu'est-ce qui se passe? La mission de Jésus-Christ ressemble à certains points à la mission de Moïse. Sortir le peuple de la captivité. Sortir un peuple de l'esclavage. Et Jésus-Christ utilise les rituels que Moïse utilise. Lesquels? Lorsque Pharaon, comme son cœur était endurci, il ne savait pas qui était Yahweh. Il ne comprenait pas à qui il avait affaire. Il a dit qu'il va tuer tous les premiers enfants de l'Égypte. Dieu lui a dit qu'il va tuer tous les premiers enfants. Il a dit qu'il voulait tuer tous les premiers enfants d'Israël. Dieu lui a décidé d'anéantir tous les premiers-nés. C'est quoi la symbolique de tuer les premiers-nés? Le premier-né dans une famille, c'est la force vive. Lui, c'est ce que ça représente. Il symbolise la force vive de cette maison. On ne joue pas un aîné parce qu'il représente le symbole de force. La vigueur. Vous voulez l'anéantir au niveau symbolique, Dieu a donc décidé de tuer les premiers-nés d'Égypte, commençant par le premier fils de Pharaon. Il y a une symbolique derrière. Pour échapper à la colère divine, le peuple d'Israël qui était en captivité depuis plus de 400 ans, je crois 420 années au total, devait tuer un agneau, prendre le sang de l'agneau, mettre sur la porte, afin que l'ange de la mort, quand il reconnaîtra le sang, ignore cette maison et y passe. En outre, cet agneau, il ne fallait cacher aucun de ses os. Et il fallait le manger rapidement. Et avec quoi? Avec des herbes amères. Il y a une symbolique dans cet enseignement. Jésus-Christ est l'agneau dans la nouvelle alliance. C'est son sang qui protège de l'ange de la mort. Parce qu'avec Jésus-Christ, on est pardonné. Avec Jésus-Christ, les péchés sont effacés. L'exécution de Jésus-Christ a été rapide. On l'a amené dans un procès rapide. Allez, il fallait pas le suivre. Aucun autre, en temps normal, les crucifixions brisaient leurs os. On n'a pas brisé les os de Jésus-Christ. Applaudissez pour les autres. Il y a une symbolique là, entre ce qui s'est passé pour que le peuple d'Israël sorte de la captivité, et ce que Jésus-Christ vient faire pour sauver l'humanité de la captivité. Là, ce n'est plus le macabre, c'est la viande de Dieu. Non, on n'est pas encore au canton. Alléluia. Vous devez comprendre ces choses. C'est pourquoi, quels que soient les lieux où vous allez, on vous dit qu'on veut faire un sacrifice. Dieu n'est pas dedans. Parce que le Père créateur, le Fils divin, a versé déjà son sang et son sacrifice remplace tout autre sacrifice après lui.
Amen.
Vous devez être donc dans cette compréhension du sacrifice de la croix de Jésus-Christ. La louange est essentiellement l'adoration chrétienne. Parce qu'en fait, vous allez voir quand on va entrer dans la louange, l'enseignement sur la louange, vous allez vous rendre compte qu'il y a des similitudes. Mais c'est là le sujet central de l'adoration. Il est important de louer Dieu. Comment on loue Dieu? À travers les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Là, je vous prive de tous les passages qui passent là, qui passent par là, parce qu'il faut qu'on avance. À la naissance de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe à sa naissance. Il y a des temps de louange qui ont été faits pour adorer Dieu. Vous pouvez voir ça dans Luc 2, versets 13 à 14. Et l'église du Nouveau Testament était une église qui sentait. Parce que cette église comprenait l'importance de la louange et de l'adoration. Vous avez 1 Corinthiens 14, 15 qui en parle. Et quand on parle d'adorer Dieu, comment peut-on adorer Dieu? Au-delà des principes, on fait l'adoration de deux façons. D'un côté, avec les diligences, Mais de l'autre côté, en langue, vous allez avoir un enseignement sur le parler en langue le mois prochain.
Amen.
Et puis les dons de l'esprit. On va vous donner tout ça. Donc, on va adorer Dieu avec l'intelligence. Donc, on dit des choses qu'on comprend, rationnelles, etc. On peut aussi adorer Dieu en parlant en langue. Faites attention pour le parler en langue. Quel est le faux parler en langue? Entre les imitateurs du pasteur qui nous aident, je ne sais pas d'où vient son parler en langue. Le parler en langue est de Satan. Il est important que vous ayez tous ces enseignements. Avant le 31 décembre, tous les fidèles ici seront des gens robustes spirituellement.
Amen.
Dis à ton voisin, quelqu'un ne va plus te tromper.
Quelqu'un
ne va plus te tromper. Il y aura mon voisin.
Il y aura des fini, mon voisin.
Donc, concernant l'adoration, vous pouvez lire 1 Corinthiens 14, verset 15. On adore avec l'intelligence, soit en langue. Mais pas les choses que vous dites en l'air, c'est précisé dans la Bible, dans la parole. 1 Corinthiens 14, verset 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lire?
1 Corinthiens 14, verset 15, je dis au nom de Jésus.
15.
Verset 15. D'accord. Que fais-donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence.
Mmh. Amen. On chante par l'esprit, mais on chante aussi avec l'intelligence. On prie par l'esprit, mais on prie aussi avec l'intelligence. Un autre pan de l'adoration consiste à chercher la face de Dieu à travers la prière. Je vous donne un conseil. Il est déjà donné à mes enfants parce que la pratique permet d'aller très loin. Même si ça va mal n'importe comment, dans votre vie, ne lâchez jamais la prière.
Amen.
Est-ce que vous entendez ce que je dis? Même si ça va mal, n'importe comment, la manière dont le diable peut vous basculer, tant que vous êtes dans la prière, vous tenez le bon bout.
Amen.
Les choses vont toujours se renouveler et vous avez la chance de sortir de la captivité, de sortir des pièges et de vous relever.
Amen.
Mais si vous lâchez la prière, là, ça devient très compliqué. Il est extrêmement important de prendre conscience de cela. La prière est un autre pan de l'adoration. Genèse 20, verset 17 le dit. Nombre 11, verset 2. Genèse 20, 17. Nombre 11, 2. Samuel 6. Samuel 8, 6. Je vous donne les versets, vous allez les lire. Genèse 20, verset 17. Nombre 11, verset 2. 1 Samuel 8, 6. 1 Samuel 8, 6. Daniel 9, le verset 3, 19. Daniel 9, verset 3 à 19, et Jean, Jacques 5, le verset 17 à 18. Je vous le dis avec le cœur, parce que la marche avec Dieu n'est pas une chose facile. Quel que soit ce qui se passe, il y a toujours des pièges. Entre les pièges qu'on peut identifier, rationnellement, et ceux qu'on ne peut pas. Mais si vous perdez le style, par exemple, ce matin, la prière était un piège. La prière était un bien qui a continué pour beaucoup. Il y a près de 20 personnes qui étaient là la semaine dernière qui sont absentes. Parce que le piège de la pluie, ils n'ont pas dit que c'est un piège pour qu'ils viennent. Le diable, lui, sait comment faire. Le problème, ce n'est pas la pluie. Le problème, c'est l'idée qui s'amène après. Et du cadidon, qui pleut les temps. Bon, beaucoup de gens ont raté leur délivrance aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas suivi le bien. Oh, s'ils étaient en prière, c'est l'Esprit Saint qui leur a dit que malgré la pluie, partons là-bas. Vous devez rester en éveil. Je demande hein, de vous à moi. Quand quelqu'un a péché, il va suivre. Non, tu vas te cacher de Dieu. Il est parti, n'est-ce pas? Ok. Quand tu vois alors que ça a pu comme ça, tu fais quoi? Tu es obligé de revenir vers lui. Et tu vas faire quoi? Tu vas seulement prier. Juste avec qui la crise sur le côté-là. Or, j'avais un principe extrêmement important dans la parole. Dieu est miséricordieux envers ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. Le psaume 103, le verset 17 à 18. Et même quand vous regardez le même psaume, pratiquement de la partie qui va du 7, du verset 7 à pratiquement jusqu'à 12, qui explique encore comment ta miséricorde s'applique. Parce que le péché, quand on parle, c'est quelque chose de prémédité. Quelqu'un pense que le mal dans sa tête, comme ça, ça, qui dit que je vais faire. Tu vas faire. Ok. Quand tu es tombé, alors tu réalises, tes yeux s'ouvrent quand tu es tombé. Tu réalises qu'il faut t'arrêter. Tu pars où? Revenons sur route, tu ne serais pas à route qui mène à Dieu. Il faut prendre conscience de ça. Or, quand vous êtes dans la prière, ça devient de plus en plus difficile de tomber. Et même si vous tombez, vous avez la grâce de pouvoir vous racheter parce que vous allez trouver le moyen de dialoguer. Parce que si vous avez pris Dieu, vous tentez de prier Dieu, et que Dieu se retourne, je préfère ne pas finir. Donc il est très important de prendre conscience de la prière. La prière vous rendra des services immenses, à des niveaux inestimables, dans tous les compartiments de votre vie. Vous soyez en bon terme avec le Créateur ou en mauvais terme. De grâce, je vous le dis avec le cœur d'un père. Quelle que soit la manière dont ça va mal, ne lâchez jamais la prière.
Amen.
Toujours d'un point de vue chronologique et historique, après l'ascension de Jésus-Christ, les apôtres se sont mis en prière. Continuellement, ils sont restés en prière. Acte des apôtres 1, le verset 4, 14 le dit. La prière est devenue une partie intégrante du culte d'adoration des premiers chrétiens. Donc vous avez acte 1, 14, vous avez acte 2, 42, qui l'explique clairement. Et 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Donc les chrétiens ont appris depuis le départ à prier, soit pour leur faveur, soit pour les autres. C'est pas comme vous l'avez dit ici qu'il faut d'abord prier pour les autres, d'abord prier pour vous-même. C'est biblique. Il y a des références bibliques là-dessus. Acte 4, le 24 à 30, parle de ça. Ou encore Romains 15, le verset 30 à 32, parle de ça. Et les prières étaient généralement accompagnées d'actions de grâce. Il y a quelque chose de fondamental dans l'adoration. C'est un pan important depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. C'est savoir confesser ses péchés. Savoir confesser ses péchés est aussi important depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle. Quand vous prenez un roi 8, de 30 à 39, Néhémie 9, vous allez voir ça. Matthieu 6, 12, Jacques 5, 16. Je vous lis ça tranquillement pour votre édification. 1 Roi 8, verset 30 à 39. Néhémie 9, Matthieu 6, 12. Jacques 5, 16. Et 1 Jean 1, verset 9. Vous comprenez que confesser ses péchés est fondamental. Vous avez le choix. Je n'ai pas dit de venir seulement confesser chez moi, hein. Vous pouvez aussi vous confesser chez vous. Et la parole dit d'ailleurs qu'il faut se confesser mutuellement les uns. Voilà, si tu as fait du mal à ton frère, va lui dire que vraiment, pardon. C'est pas que ton frère n'est pas au courant de ton pardon, tu veux que tu sois l'envoyé qui te accorde le pardon. Va voir la personne qui peut t'accorder ce pardon-là. Donc il faut savoir confesser ses péchés. L'adoration doit aussi inclure une lecture biblique, publique de l'écriture et sa proclamation. Deutéronome 31, le verset 9 à 13. Lisons Deutéronome 31, le verset 9 à 13. Parce que certains ne comprennent pas. Il y a une solennité dans l'adoration qui est fondamentale. Le peuple doit connaître la parole. Et cette parole doit être lue publiquement. Pour que Dieu soit content. Pour que le peuple soit édifié. Mais dit Deutéronome quoi? Le 31, 9 à 13. Un lecteur ou une lectrice sur ma droite, s'il vous plaît. Depuis la dernière vue, personne se levait sur ma droite.
Deutéronome 31, verset 9 à 13.
Mon fils, lis ça avec plus de temps, quand même.
Moïse écrivit cette loi.
et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre, tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le Dieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence.
On lit la loi devant, afin d'adorer le. C'est très important de comprendre cet esprit. Autre élément, l'été, le reste de chacun va se retrouver. Celui qui adore véritablement Dieu doit présenter les dîmes et les offrandes au Seigneur. On a déjà donné un certain nombre de passages concernant la présentation des dîmes et des offrandes. On en ajoute un aujourd'hui. 1 Corinthiens 16, verset 2. On a déjà parlé du livre qui prend 8 concernant les offrandes. Vous avez Malachie 3, le verset 8 pratiquement à 11 concernant la dîme. Parce qu'en allant leur d'un certain référent dans l'Ancien Testament, ils disent que l'Ancien Testament est passé. Ils n'ont pas lu la partie où Dieu dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. L'enseignement qu'ils ont reçu a échappé à l'endroit où Dieu, Jésus qui dit que lui n'est pas venu abolir la loi. Il est donc important de comprendre autre chose. L'adoration a une dimension charismatique. Avec l'intervention de l'Esprit Saint. L'adoration a une dimension charismatique, avec l'intervention de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'Esprit qui agit, c'est celui qui enseigne, mais même s'il ne peut pas t'enseigner, il vous nourrit, il vous traite, il est le consolateur. Il fait les démonstrations de puissance. Comment votre adoration de Dieu, de Jésus-Christ, est-ce qui fait stop, méga giga sympathique, et reste sans effet. Vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit quand vous êtes dans le land, endroit où rien ne se passe. Quand le problème se cale au pouce, le plus qu'il n'a jamais résolu aucun problème, c'est quoi? Il ne manquait jamais la maître, c'est le plus important. Le culte là, tu n'as jamais le fait. Le plus il est alors où? Tu adores, sans avoir un aspect charismatique de l'adoration, c'est qu'il y a un problème. Dans le charisme, il y a la démonstration de puissance. 1 Corinthiens 12, le verset 7 à 10, ce sont les références. 1 Corinthiens 14, le verset 26. Donc l'Esprit Saint intervient, la dimension charismatique de l'adoration. 1 Corinthiens 12, le verset 7 à 10. 1 Corinthiens 14. Verset 26. 1 Corinthiens 14 encore, de 1 à 33. Vous aurez la grâce de fouiller ça vous-même en profondeur. Il n'est pas nécessaire qu'on lise ici. Autre élément fondamental grâce à l'adoration, c'est ça. Je bénis abondamment toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui.
Amen.
C'est que les bénédictions sont accordées aux véritables adorateurs. C'est prévu par la parole. Nous allons lire ensemble Apocalypse 3, 20. Exode 40, 35. Apocalypse 3, 20. Exode 40, 35. 1 Pierre 4, verset 14. Pour que vous voyez l'étendue de cette bénédiction, je vais donner beaucoup de passages. Apocalypse 3, 20. Exode 40, 35. 1 Pierre 4, 14. J'ajoute. Jean 15, 11. J'ajoute, Marc 11, 24, je veux que les gens qui n'ont jamais lu, depuis qu'on lit bien ici, que ce soit eux qui lisent aujourd'hui, qui est les gens qui n'ont jamais lu, c'est parce que quand ils refusent de lire, comme ça ils refusent leur bénédiction et leur grâce. Jean 15, 11, Marc 11, 24, Jacques 5, 15, et j'ajoute encore, deux passages. J'ai dit Jacques 5, 15, Acte 4, 31 et Acte 4, 31 et 1 Corinthiens 12, le verset 7 à 13. On va lire tout ça ensemble. Parce qu'on est en train de conclure, il faut que ces passages soient ingrédités. Il y a d'abord Apocalypse 3:20.
Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
Amen.
Amen.
Celui qui adore a ce privilège, Jésus-Christ cogne à ta porte. Et si tu ouvres la porte, il vient souper avec toi. Si la lumière vient souper avec toi, c'est-à-dire que la lumière s'impose dans tous les compartiments de ta vie.
Amen.
Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est la lumière des hommes. Il est disposé à venir souper avec toi, c'est-à-dire qu'il vient remplir ta vie de bénédiction et de grâce.
Amen.
Il y a Exode 40, 35. Qui est volontariste aujourd'hui.
Exode 40, 35. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle.
Lorsque vous êtes dans un esprit d'adoration, la gloire de l'Éternel remplit cet espace-là. Elle remplit cet espace parce que vous avez compris le principe de l'adoration. Dieu se manifeste jusqu'à une dimension physique, jusqu'à une dimension matérielle, accessible par les cinq sens. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans un bon état d'esprit, chaque dimanche ici, l'Esprit Saint manifeste la puissance divine dans vos vies. Et c'est pourquoi vous avez autant de miracles qui continuent à s'aligner. C'est pourquoi la joie peut-être se remplit dans vos vies. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous sont en train de rajeunir. Il y a 1 Pierre 4:14.
Dis au nom de Jésus, qui vous êtes, vous sagez, pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous.
Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire repose sur vous. Que l'esprit du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous.
Amen.
Jean 15, 11.
Jean 15, 11. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen.
Amen. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit
parfaite
et que votre joie soit
parfaite.
Votre joie est parfaite parce que vous êtes bénis en Jésus-Christ.
Amen.
Et vous êtes bénis parce que vous avez adoré Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il y a Marc 11, 24.
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu.
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que... C'est-à-dire tout ce que vous demanderez en adorant Jésus-Christ, croyez que vous l'avez
reçu. Et vous le verrez s'accomplir.
Et vous le verrez
s'accomplir.
C'est la parole qui le dit. C'est écrit. Nous avons démontré que la prière est un temps de l'adoration. Il est écrit que celui qui prie, il croit que ce qu'il a demandé est déjà et que cela va se matérialiser.
Amen.
Vous ne dites pas amen.
Amen.
Que dit Jacques 5:15?
Il y a un voisin
qui dorme.
La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
Ma fille, relis ta bien. Il y a des gens qui ont raté quelque chose. Relis ce que tu es en train de lire là.
La prière de la foi sauvera le malade, et si le Seigneur le relèvera.
Relis ta. Prends une respiration, sois sûr de bien lire ça. C'est un virage, ma fille. On ne doit pas lui faire le virage là.
La prière de la foi sauvera le malade.
Mm-hmm.
Et le Seigneur le relèvera.
Mm-hmm.
Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
Et s'il a commis des péchés, ils lui seront
pardonnés.
Que le Seigneur vous pardonne vos péchés.
Amen.
Que tous vos péchés vous soient pardonnés. Maintenant, vous êtes venus adorer.
Amen.
Vous ne dites pas
Amen. Amen.
Recevez votre délivrance.
Je reçois.
Que cette parole s'accomplisse pour vous.
Amen.
Et que toutes les personnes qui se disent reçoivent leur pardon.
Amen.
Délivrance.
Amen.
La parole est sucrée. Regarde comment ils sont souriants. Hein. Que dit Acte 4, 31? Il reste deux passages. Acte 4, 31
okay.
Et 1 Corinthiens 12, verset 7 à 13.
Acte 4, 31. Quand ils durent prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen.
Amen. Que l'Esprit Saint remplisse cet espace.
Amen.
Qui vous enveloppe tous comme au baptême de feu.
Amen.
Et qu'il abonde dans tous les compartiments de votre être ainsi que de votre vie.
Amen.
Il y a beaucoup de passages qu'on peut vous donner. Mais nous voulons finir cet enseignement par trois points extrêmement importants. C'est ce que nous pouvons appeler les obstacles à la véritable adoration. Et il faudrait que vous preniez pleinement conscience de cet obstacle. Parce que votre vie n'a que joie à partir de ce niveau. À partir du moment où vous prenez vraiment conscience de cet obstacle, votre vie va changer. Oui, mon fils, dis ce que tu as.
1 Corinthiens 7 à 13, je vous demande de Jésus.
12 du matin, 7 à 13. J'ai dit 1 Corinthiens 12 du matin, 7 à 13.
C'est 1 Corinthiens 12, verset 7 à 13, du nom de Jésus-Christ. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune.
À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour
l'unité commune.
Pour l'unité commune. Lise ça bien, mon fils.
Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune.
L'unité commune, oui.
En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance.
Faites très attention, s'il vous plaît. Ce qui est dit là, ce sont les dons spirituels qui sont égrenés un après l'autre. On commence à voir, à un est donné quoi?
À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse.
Oui.
À un autre une parole de connaissance.
Oui.
Selon le même Esprit.
Oui.
À un autre la loi. La foi par le même esprit.
Oui.
À un autre, le don des guérisons par le même esprit.
Oui.
À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits.
Oui.
À un autre, la diversité des langues.
Oui.
À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun en particulier comme il le veut.
Amen.
Amen.
Levez-vous d'abord. On n'a pas fini. Levez-vous. Que cette parole qui vient d'être lue dans 1 Corinthiens 12, le verset 7 à 13 s'accomplisse pour vous.
Amen.
Recevez vos dons. 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 Le ciel est ouvert. Recevez vos dons. 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 Le Saint-Esprit a rempli cette espace. Recevez vos dons.
Restez debout pour conclure cet enseignement. Les obstacles pour la véritable adoration sont ne pas faire les choses avec le cœur. Dieu attend que vous fassiez les choses avec le cœur. Mais ici, prenez position. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu demande que vous fassiez les choses avec le cœur. Utilisez le cœur pour l'adoration. Soyez entier. Que tout votre être soit dans l'adoration. Esprit, âme et corps. Dieu ne veut pas que vous ayez une vie immorale à ses yeux. Ayez une vie correcte devant lui. Et la troisième chose qui bloque l'adoration, c'est le fait que les gens soient envoûtés, possédés. Qu'ils soient dédiés à certaines divinités. La première, le fait de ne pas adorer avec le cœur, de ne pas être entier. La deuxième, l'immoralité dans la vie. La troisième, les envoûtements, les possessions, les dédicaces, l'oppression. Par l'autorité de Jésus-Christ, je brise toutes les dédicaces qui pèsent sur vos vies. Que toutes les personnes qui ont été dédiées aux divinités soient libérées à l'instant. Que toutes les personnes dans les cœurs traditionnels ont amené leur vie dans les corbeilles et les calebasses. Sois libéré à l'instant. Je brise toutes les calebasses qui ont été utilisées pour vous défier aux démons. Je brise tous les hôtels qui ont été utilisés pour vous défier aux démons. Je brise toutes les alliances qui ont été établies dans vos familles pour vous défier aux démons. J'anéantis tous les pactes qui ont été signés contre vous dans vos familles. J'anéantis par l'autorité de Jésus-Christ toutes les mauvaises fondations familiales qui pèsent sur vous. J'anéantis par l'autorité de Jésus-Christ toute captivité qui pèse sur vous. J'anéantis par l'autorité de Jésus-Christ tous les liens maléfiques qui pèsent sur vous. Je déteste tout ce qui a été engendré contre vous. Je déteste tout ce qui a été implanté contre vous. Je brise toutes les chaînes qui ont été établies contre vous. Je demande que tous les chefs traditionnels qui vous ont amené en captivité soient frappés et anéantis. Je demande que toutes les calebasses qui sont utilisées soient brisées.
Amen.
Que toutes les vies qui ont été attachées dans les eaux soient libérées.
Amen.
Je demande que toutes les satanistes qui sont dans les forêts contre vous soient anéantis.
Amen.
Je demande que tout ce qui a été scellé contre vous soit détruit.
Amen.
Je demande par l'autorité de Jésus-Christ que tous ceux qui ont lié les choses contre vous soient brisés.
Amen.
Par l'autorité de Jésus-Christ. Que tous les pactes qui ont été signés contre vos familles soient gérés.
Amen.
À l'autorité de Jésus-Christ, je libère toutes les personnes ici de la captivité.
Amen.
Que ce soit dans les eaux. Dans les terres, dans les forêts, dans les déserts.
Amen.
Je vous libère dans la puissance du Seigneur.
Amen.
Je demande aux chérubins de prendre position et d'anéantir tous les membres, tous les sorciers, tous les sectaires, les esprits de mort, les esprits de nerfs, les anges des ténèbres, sorciers, sectaires, vampires, violents, esprits de l'eau, les lits de corps et qui se sont attaqués à vous. Je brise tous les parties qui ont été tirées. Que tous les marabouts vraiment été amenés, je brise les calebasses et les pierres.
Amen.
Nous sommes les fils de Jésus-Christ.
Amen.
Et ainsi, toutes les puissances de Satané qui vous ont pris.
Amen.
Que vos esprits soient libérés pour l'adoration.
Amen.
Que vos esprits soient libérés pour l'adoration.
Amen.
Que vos mentalités soyez libérés pour la dévotion.
Amen.
Pour les membres de vos familles.
Amen.
Pour votre connexion.
Amen.
Soyez libérés pour l'adoration.
Amen.
À l'autorité de Jésus-Christ.
Amen.
Je déploie mon manteau. Je déploie mon sceptre. Et je déploie l'épée de l'Esprit Saint.
Amen.
La puissance. Anéantissement complet. Pour tous les membres de vos familles qui sont en captivité.
Amen.
Que l'Esprit Saint prenne contrôle dans vos maisons et détruise tout ce qui a été planté contre vous dans les maisons. Que l'Esprit Saint prenne contrôle dans les villages et détruise tout ce qui a été planté dans les villages contre vous. Que l'Esprit Saint prenne contrôle. Que l'Esprit Saint prenne contrôle dans vos lieux de service et détruise tout ce qui a été planté contre vous. Bénissez vos finances au nom puissant de Jésus-Christ. Bénissez vos mariages au nom puissant de Jésus-Christ. Bénissez votre fertilité au nom puissant de
Jésus-Christ.
Bénissez vos contrats au nom puissant de Jésus-Christ. Que désormais vos esprits soient disposés à l'adoration. Qu'il soit libre, esprit, âme et corps. Que tous les liens maléfiques qui ont été plantés contre vous soient anéantis.
Amen.
Que Jésus-Christ se glorifie dans vos vies.
Amen.
Dites après moi, Jésus-Christ est Dieu.
Jésus-Christ
est Dieu.
Jésus-Christ
est Dieu.
Jésus-Christ
est Dieu.
Jésus-Christ
est Dieu.
Jésus-Christ
est Dieu.
Jésus-Christ est Dieu.
Jésus-Christ est Dieu.
Jésus-Christ
est Dieu.
Jésus-Christ est Dieu.
Je demande à l'Esprit Saint de déployer la puissance maximum pour vous et vos familles et tous les membres de vos familles qui ne sont pas ici. Je vais te battre, je passe à cet instant. Pour toutes les personnes qui sont coincées par les sangs spirituels, je brûle ce sang spirituel.
Amen.
Je brûle tout mon mari spirituel.
Amen.
Je demande à l'Esprit Saint de tout le monde.
Amen.
En fire!
Fire!
Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit détruit dans les âmes. Dans les
âmes.
Que toutes les têtes explosent. Que toutes les membranes qui ont été mises sur vous soient détruites. Enlève-vous les poils et les masques qui sont sur vous. Et brise par le feu de l'Esprit Saint.
Amen.